Salut les marcheurs, bienvenue dans votre chronique du samedi matin. Je marche donc je suis. Amoureux de la nature, enfilez vos chaussures, partons pour un itinéraire tonique et convivial. Débutons à notre habitude par la minute remue-ménage en allant voir les processus induits par la marche chez les autres, notamment les écrivains et les philosophes. Aujourd'hui, Rainer Maria Rilke, poète autrichien du début du XXe siècle, souvent associé à une profonde réflexion sur l'existence, l'art et la beauté de la nature. Dans ses œuvres, la marche peut être perçue comme un acte d'union avec le monde, un moyen d'explorer non seulement l'environnement physique, mais également les émotions et les pensées intérieures. Dans ses poèmes, Rilke évoque la solitude et la contemplation, soulignant la connexion entre le corps et l'esprit durant l'acte de marcher. Ses descriptions lyriques des paysages naturels, des changements de lumière et des saisons résonnent avec l'expérience humaine, transformant ainsi la marche en une métaphore de la quête spirituelle et de la recherche de sens. La promenade permet à Rilke de se connecter profondément à son environnement. Chaque pas est une invitation à ressentir pleinement le moment présent, à observer et à apprécier les détails souvent négligés de la nature. Rilke décrit souvent les paysages qu'il traverse, où la nature devient un témoin silencieux de sa réflexion intérieure. Il parle de l'impact des arbres, des montagnes et des ciels étoilés sur son âme, transformant la marche en une communion avec l'univers. Rilke évoque la promenade comme une occasion de stimuler tous les sens, les sons, les odeurs, et les couleurs qui entourent enrichissent son expérience, créant un personnage sensoriel qui nourrit son écriture et sa créativité. Rilke utilise la marche pour illustrer le passage du temps et les changements inhérents à la vie. Les différentes saisons qu'il observe lors de ses promenades peuvent symboliser les phases de l'existence humaine avec ses joies et ses peines. La marche pour Rilke devient une forme d'évasion et de révélation où chaque pas est une invitation à s'immerger dans la beauté du monde et à se confronter à ses propres réflexions existentielles. Pour Rainer Maria Rilke, la promenade transcende le simple acte de se déplacer d'un point à un autre. Elle devient une expérience enrichie de significations profondes. En ce sens, il a largement magnifié cet acte simple en le dotant d'une profondeur poétique significative. Ces thèmes peuvent être trouvés dispersés dans ses différentes œuvres, notamment dans les cahiers de Malte Lorridge et dans ses poèmes où il capture la richesse de l'expérience tout en marchant dans le monde.
Vous écoutez votre émission « Je marche, donc je suis » présentée par Robert Almalric.
Le conseil du jour s'adresse aujourd'hui à ceux qui utilisent pour s'hydrater les fameuses poches et leurs tuyaux. Nous ne reviendrons pas sur la nécessité de s'hydrater même en hiver, où la sudation est plus faible. L'avantage de ces outres intégrées au sac, c'est que l'on peut boire à tout moment, sans avoir l'obligation d'ouvrir son sac ou de récupérer sa gourde, qui n'est pas toujours accessible. Là, pas de problème. Le tuyau relié à votre poche vous permet de boire tout en marchant. Donc, cette option est très intéressante, mais le conseil d'aujourd'hui cible l'entretien de ce dispositif. Il faut, après usage, bien sûr, le nettoyer. Mais pour éviter une prolifération des bactéries, notamment à l'intérieur de la poche, il est recommandé d'avoir après l'avoir vidée, de la conserver au congélateur. Si le froid ne tue pas toutes les bactéries, il évite au moins leur développement.
Vous êtes bien sur Radio FM+, et vous écoutez « Je marche, donc je suis ».
Sur l'état des parcours, en période de fête et de mauvais temps, pas d'informations particulières.
Je marche, donc je suis, sur Radio FM+.
Bon, c'est l'hiver, on sort moins, ou du moins moins longtemps, et donc le niveau de dépenses physiques a tendance à diminuer, et notamment, l'on marche moins. Votre nombre de pas réalisés chaque jour s'abaisse, venant sans doute en dessous des 5000 pas. Alors, la rando, bien sûr, ce n'est pas un marathon, ce n'est pas du running, mais cela reste un exercice qui, sans être exigeant, ne doit pas être pris à la légère. Pour une rando, vous allez faire 3 à 5 fois plus de pas que dans votre quotidien. Et cela mérite d'être pris en considération. Le premier conseil, c'est de bien dormir. C'est valable pour tous les sports et c'est valable aussi pour votre forme générale. Notre sommeil, vous le savez, comporte 3 phases. Votre corps passe d'une phase à l'autre tout au long de la nuit. Le sommeil lent, c'est la phase la plus longue, qui couvre la majeure partie de votre temps de sommeil. C'est un sommeil léger qui se caractérise par des ondes cérébrales. Ensuite, il y a le sommeil dit paradoxal. La plupart des rêves se produisent durant cette phase. Elle favoriserait, dit-on, l'apprentissage et la mémoire. Et puis, il y a la fameuse troisième phase, la plus courte, le sommeil profond, également appelé à ondes lentes. C'est au cours de celui-ci que notre corps est très détendu. Les rythmes cardiaques et respiratoires sont à l'étiage, très bas. C'est le moment privilégié où le corps s'auto-répare. L'hormone de croissance, indissociable de la régénération des cellules, se met en activité au cours de cette période. Elle va permettre d'effacer les micro-lésions des muscles, des tendons, et de tous les tissus sollicités par les efforts physiques. C'est aussi au cours de cette phase que certaines hormones essentielles sont produites. Alors attention, les nuits trop courtes, en plus de limiter cette remise en état, peuvent déclencher un état pro-inflammatoire généralisé, propice aux blessures, qui amplifie en plus la dégradation articulaire et la perception de douleur. Pour clore le sujet, n'oublions pas que notre résistance à la douleur chute de 25% lorsque le sommeil est écourté de 4 heures. En résumé, nous dirons règle numéro 1, bien dormir pour mieux se porter.
Vous écoutez votre émission « Je marche, donc je suis » présentée par Robert Almalric.
Assez parlé, passons au texte et à la mélodie. Ce sera Jean-Jacques Goldman et sa chanson « Je marche seul » pour une balade urbaine existentielle. Dans cette chanson, Goldman aborde des thèmes de solitude, d'introspection et de quête personnelle. À travers les paroles, il exprime le sentiment d'indépendance et de choix de vivre sa vie selon ses propres règles, même si cela implique de marcher seul. La chanson évoque aussi les difficultés et les doutes qui peuvent accompagner cette solitude, mais elle célèbre également la force et la liberté qui viennent avec le fait de se libérer des attentes des autres. À un niveau plus profond, c'est un reflet sur les relations humaines et le besoin d'authenticité.
Comme un bateau dérive mais ça ne s'achète pas. Je m'en fous de tout, de ces chaînes qui pendent à mon cou. Je m'enfuis, j'oublie, je m'offre une parenthèse, un sursis. Je marche seul dans les rues qui se tordent et la nuit me pardonne. Je marche seul en oubliant les heures. Je marche seul sans témoin, sans personne que mes pas qui résonnent. Je marche seul, acteur et voyeur. Je marche seul quand ma vie
Radio FM+. Deuxième partie, Robert Malric. Donc, aujourd'hui, je reçois quelqu'un que vous connaissez très bien, n'est-ce pas, qui intervient souvent sur cette radio, c'est Yolande Gounel. Yolande qui vient nous parler de géologie. C'est un thème récurrent que nous développons régulièrement et que nous allons continuer à développer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, bonjour Yolande.
Bonjour Robert.
Et donc, aujourd'hui, je crois que tu vas nous parler d'une zone assez intéressante du côté de Joncelles.
Voilà, du côté de Joncelles, donc dans les monts d'Orbe, dans l'Hérault. Et surtout, on va se téléporter à une période particulière, juste après la plus grande extinction que la Terre ait jamais connue, qu'on appelle la Grande Mort, c'est tout un programme, à la fin du Permien, il y a 252 millions d'années. Je rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles, Cambrien, Ordovicien,
exactement,
Sigurien.
J'ai noté tout ça, Carbonifère, Permien. Moi, Permien, j'ai de moins 298 à moins 252
environ. C'est tout à fait ça. Et donc, le Permien se termine par une très grande extinction. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, des éruptions volcaniques dans l'actuelle Sibérie pendant des milliers d'années. Sans interruption. Alors, vous prenez là tous les volcans de la Terre, actuellement, vous les faites jaillir tous en même temps, vous multipliez ça par 100 et vous êtes encore loin du compte. Alors, on peut imaginer le dégagement d'hydroxyde de soufre, ça pue, ça sent pas bon. Et puis, le refroidissement.
Difficile à respirer aussi.
Voilà. Refroidissement du climat, ça, c'est pas trop grave, mais après, CO2, donc effet de serre, fonte du méthane. On connaît ça, on en entend parler maintenant. Chaleur intense, 90% des espèces marines meurent, 70% des espèces terrestres disparaissent et les plantes ne survivent pas non plus. Voilà le tableau à la fin du Permien.
Sacré tableau. Donc c'était la plus grande, on va dire, révolution qui s'est passée sur notre planète, où malheureusement, le départ s'est avorté, quoi.
Révolution, c'est en fait la plus grande extinction. Alors, il y en avait une avant, mais ça serait compliqué à rentrer dans les détails. C'était au moment où l'oxygène est apparu. Là, il y a eu aussi une extinction, mais elle ne rentre pas dans ce que les géologues appellent les grandes cinq, les Big Five, dont on va reparler tout à l'heure. Parce que là, effectivement, on arrive au Trias.
Oui.
Donc, le Trias commence par une extinction et va se terminer par aussi une grande extinction. Donc, c'est une période un peu maudite. Alors, à Joncelles, eh bien, on est allé chercher des traces de ce Trias. Il y en a. Il n'y en a pas beaucoup parce que le Trias, on ne le voit pas beaucoup en France. Il est recouvert souvent par du Jurassique, qui lui oui. est très massif.
Mais c'est ce qui est très original. On peut justement accéder à ce Trias.
Oui, on peut accéder. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on branche notre smartphone sur InfoTerre et on voit les zones qui sont donc du Trias.
InfoTerre, voilà, je vous rappelle, c'est pour accéder aux fameuses cartes géologiques qui sont éditées par le BRGM.
Alors, on a donc... alors, branchez votre smartphone avant, parce qu'à Joncelles, je ne suis pas sûre qu'il y ait du réseau. Mais bon, alors, on se gare à Joncelles, et là, on prend un petit chemin en direction d'un hameau qui s'appelle Béros. C'est un sentier qui est bien marqué, qui est facile, il est agréable, il est de taille modulable, c'est-à-dire on peut prendre des raccourcis ou on peut le faire en entier. Et il peut être fait en famille, donc un sentier facile. Alors, dès la sortie de Joncelles, dès que vous avez quitté le village, vous êtes dans les marnes du Trias inférieur.
Ah, parce qu'en plus, c'est non content d'avoir plusieurs catégories, il y a du inférieur et du supérieur.
Il y a de l'inférieur, du moyen, du supérieur, et dans les inférieurs, moyens et supérieurs, il y a encore des sous-catégories, des sous-périodes. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, ces marnes du Trias inférieur, elles sont surtout rouges parce que, qu'est-ce qu'il y a eu donc pour qu'elles soient rouges?
De l'oxydation, bien sûr.
Exactement. Alors, on se rappelle qu'à la fin du primaire ou paléozoïque, les continents étaient regroupés dans un supercontinent dont on a déjà parlé ici, la Pangée. Et notre région, elle se trouve en zone tropicale et loin de l'océan. Puisqu'il y a un seul continent, l'océan, il est forcément loin du milieu. Climat aride, très chaud. Donc, oxydation du fer et couleur rouge. Alors, la région, elle est soumise à une très forte érosion.
Oui.
Et il n'y a pas de dépôt, c'est pour ça qu'il y a très peu de trias. Hein. C'est un désert.
La mer viendra après, on va dire.
La mer viendra après, on va la retrouver. Mais pour le moment, au trias inférieur, il n'y a pas de mer. Donc, c'est un désert. Il n'y a pas de bruit d'insectes, puisqu'il n'y a plus d'insectes. Il n'y a pas de plantes, puisque les plantes sont mortes. Il y a très peu d'animaux. Il y a quelques-uns, mais très peu. Alors, on continue à monter notre chemin et on arrive dans la zone marquée T2 sur votre smartphone, dans l'application InfoTerre. Donc, c'est un petit peu plus tard. Alors, on trouve des grès massifs, parfois carbonatés. Alors, carbonaté, ça veut dire organique.
Organique.
Donc, on est content, on retrouve la vie. Eh bien, non. Pas si vite. On n'en sait rien parce qu'en fait, il y a du CO2, donc il y a eu de la vie. Mais la roche, c'est peut-être une sorte d'archive. C'est-à-dire qu'elle a peut-être enregistré du carbone d'avant. Qui s'est mis dans les roches, mais il n'y a pas de fossiles, il n'y a pas de traces de vie. Alors, le chemin devient plat. On cherche des roches. Hein, n'oubliez pas qu'on est venu pour ça. Attention de ne pas confondre avec les murets, parce qu'il y a des murets qui soutiennent les champs.
Oui, ça c'est beaucoup plus récent, c'était pour l'agriculture, ça a commencé au Moyen-Âge.
Voilà, et il ne faut pas les chercher non plus sur le chemin, parce qu'on ne cherche jamais des roches sur le chemin, parce que sur les chemins, souvent, c'est des roches qui sont rapportées. Donc, on les cherche sur les champs, à côté. Mais vous allez quand même lever les yeux des cailloux aussi, parce que les mondes...
C'est ce qui est important, c'est ce qui explique parfois justement ce qui s'est passé il y a ces centaines de millions d'années.
Alors là, justement, on lève les yeux et puis on voit le paysage des monts du Languedoc. Et c'est beau, c'est un beau coin avec des collines douces, des grandes ombres, surtout si vous êtes le matin ou le soir. Alors, comme vous avez un beau paysage, vous êtes optimiste, vous dites « on va retrouver la vie ». Vous êtes maintenant dans les calcaires coquillés du Trias, qui n'est plus inférieur, qui commence à remonter un peu vers le moyen. Alors, vous prenez un caillou, vous regardez le socle, et puis vous regardez le caillou. Vous voyez des traces de vie comme des petites stries dans les pierres. Alors, vous dites « chouette, c'est des fossiles », même archaïques, mais c'est des fossiles, preuve de vie, vous êtes content, tout revient. Eh bien, non.
Non. Pas encore.
Pas encore.
Pas encore.
Ces roches sont des carnieules. Alors, carnieules, ce n'est pas un gros mot, ça veut simplement dire que ce sont des roches calcaires avec des stries qui sont dues à la dissolution de certains minéraux par voie chimique, tout simplement. Donc, toujours pas de vie. Et pourtant, ben, on sait que la mer est revenue. Au Trias moyen, la mer, elle revient.
Voilà, avec des sédiments qui vont commencer à se déposer.
Ben, qu'on va essayer de trouver. Alors, pourquoi elle est revenue, la mer ? À cause...
Ces fameuses plaques tectoniques qui bougent, non ?
On est toujours dans un supercontinent, mais le supercontinent, il s'est affaissé un peu. Donc, et puis, surtout, la mer a eu une remontée globale. La mer, donc, on se rappelle comment elle s'appelle, qu'on se rappelle son nom, hein, c'est la Tétis. Et donc, la Tétis, elle inonde des bassins et les bordures du continent européen, y compris là où on met nos pas, même si on n'est pas vraiment au bord du continent européen. Disons que plutôt que parler de mer, à Joncelles, ça sera plutôt des marges lagunaires que la mer proprement dite. Alors, qu'est-ce qu'on
de
va
grands
trouver ?
Marais comme on connaît de nos jours en bord de Méditerranée, tout
voilà,
le long de
ben,
notre côte.
Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Alors, vous allez trouver du grès rouge bigarré, témoin de l'érosion du vieux socle hercynien. On a parlé du socle hercynien, les montagnes, donc ça s'abîme. Il y a beaucoup de sable, on trouve beaucoup de sable sur ce chemin, un peu de dolomie.
Les fameuses dolomies, oui.
Ouais, qui sont des roches grisâtres, qui montrent qu'il y a eu des faciès de lagons, de plateformes peu profondes, avec de l'évaporation intense qui ont favorisé les concentrations de magnésium. Mais toujours pas de preuve de vie. C'est un peu décevant, c'est dommage, mais c'est pas grave.
Oui, mais enfin, il faut faire quand même, pour trouver de la vie, il faut faire des sauts de millions d'années, hein, c'est pas...
Ben, il y en a, mais bon, il faut les trouver, c'est pas simple, hein. On n'en trouve pas toujours. Et là, enfin, moi, j'en ai pas trouvé. S'il y en a qui en ont trouvé, ils nous feront signe à la radio, parce que ça serait intéressant. Mais c'est pas grave, parce qu'on va profiter de la présence d'une forêt de chênes,
oui.
Et on va parler du retour des plantes. Même si les plantes qu'on va voir sur
ne
notre...
Ne datent pas de l'époque,
non,
bien sûr.
Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles plantes ? Eh bien, il y a des plantes que tout le monde connaît qui sont les gymnospermes. Alors, qu'est-ce que c'est que les gymnospermes ? Ben, ce sont tout simplement des conifères. Ce sont les conifères et puis les ginkgos. Et les ginkgos, ben, ceux que vous avez dans
votre
jardin.
Qui ont traversé les millions d'années et
ouais.
Qui sont toujours présents.
Ouais. Et puis, disons que ce qui est intéressant, c'est la graine, les graines. Alors maintenant, la graine apparaît. Et la graine, ben, c'est un petit embryon qui est dans une coquille, qui est protégé, qui a des réserves nutritives, comme, un peu comme un petit œuf.
Prêt à se développer si les conditions sont favorables.
Voilà, et qui peut attendre, surtout.
Bien sûr.
Auparavant, on avait des fougères. Les fougères, il faut de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, bah, la fougère, elle crève et puis...
Elle disparaît.
Alors que là, la graine, bah, elle prend son temps, elle attend. Et elle est dispersée par le vent. Elle n'a même pas besoin d'animaux. Et donc, eh bien, sur notre chemin, donc, en regardant les chênes qui ne sont pas du tout d'époque, mais on peut s'imaginer le retour de la forêt. Alors voilà donc pour notre chemin donc au Trias. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est les animaux.
Les premiers qui arrivent, qui reviennent, on va dire, ou c'est le retour après la grande disparition.
Ouais.
Alors les premiers dinosaures datent de cette période.
Eh bien oui, les premiers dinosaures, ils vont arriver vers la fin du Trias moyen ou ouais. Au début du Trias supérieur. Alors, ils n'arrivent pas comme ça, pouf, par génération spontanée. Ils descendent des archosaures, qui étaient une forme de crocodile, si on veut, présent avant l'extinction. Et alors, ceux qui ont survécu, eh bien, ce sont des bestioles de petite taille, et peu évolué. Et alors, ce qui nous donne peut-être une leçon de morale, il vaut mieux être petit et un peu bête
oui.
Pour survivre aux extinctions. donc voilà.
Disons que c'est pour le règne animal, on ne va pas le généraliser pour les individus, n'est-ce pas ?
Je ne sais pas. Alors, on est dans le Trias, et alors 50 millions d'années après la première extinction, la grande extinction, eh bien, il y a encore une autre extinctions. La quatrième chronologique et la quatrième aussi en ordre d'importance. C'est encore un épisode volcanique dû à un affaiblissement de la croûte dans la province centre-atlantique, disons. La Pangée commence à se déchirer. Et ça va être la naissance,
à nouveau, oui.
Voilà, l'Atlantique,
voilà.
Le Jurassique, etc. Alors, une croûte qui s'amincit, ça veut dire une diminution de la pression et donc, sous la Terre. Et donc, avec la température qui est constante, les roches chaudes du manteau peuvent devenir liquides en partie et ça donne du volcanisme. Et donc, cette extinction de masse, donc la deuxième du Trias, la quatrième, elle permet aux dinosaures survivants de devenir les espèces dominantes au Jurassique. Alors, on a parlé donc...
Au Jurassique jusqu'au Crétacé, avant leur disparition.
Voilà. Alors là, ça sera la troisième. Ça sera la dernière.
La dernière
extinction, la cinquième.
Ouais.
Ça sera la deuxième en ordre d'importance... ou la troisième. Oui, c'est la troisième, pardon, en ordre d'importance. Elles font partie de ces Big Five, de ces grosses extinctions. Il y en a cinq. Alors, je voudrais juste évoquer la sixième. Je n'en parlerai pas ici parce que ce n'est pas mon rôle. Mais la sixième extinction, c'est celle qu'on est en train de vivre. Et là, à la radio FM+, eh bien, ce sont mes collègues qui font la transition avec trois émissions, Vertes et pas mûres, Entre souffle et humus et Où vivons-nous ? Donc, qui parle de cette sixième extinction et peut-être de la façon de prévenir les effets.
Pour éventuellement l'éviter, c'est un terme d'actualité, n'est-ce pas ? Et est-ce que les humains seront capables de contrarier leurs activités habituelles pour essayer d'éviter cette sixième extinction ? La question est posée. Dans Radio FM+, notre chronique hebdomadaire numéro 16 se termine. Vous pouvez bien sûr retrouver nos émissions en allant sur le site www.radiofmplus.org. Vous pouvez récupérer le podcast en allant directement sur Programme, en cliquant sur Programme ou en utilisant la barre de recherche.
Petite loupe,
voilà.
Petite loupe.
Vous tapez simplement « Je marche » et vous atteindrez donc nos podcasts. Bien sûr, vous pouvez interagir sur ce podcast ou directement par mail, notamment par rapport à tout ce que Yolande vient de vous présenter, en adressant donc ce mail à contact@radiofmplus.org. Merci Yolande. Allons nous séparer avec un titre que tu as sélectionné. C'est The Fray, je crois.
The Fray, Our Last Day. Nos derniers jours.
Le dernier jour. On espère que ce n'est pas prémonitoire, n'est-ce pas ? Donc, on se sépare en musique avec cette chanson. Et je vous dis donc bye-bye et à la semaine prochaine, 10h. Enough to make you wonder, can anything last at all? This broken
sound.